RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Et oui, jusqu'à minuit, on est là dans l'after avec François Malardeau, avec Jonathan McCarty, avec Anthony Quintela, qui est notre gagnant de l'After Academy. Et avec Fred Piquion, toujours avec nous. Ça va reprendre en Égypte, entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, deuxième mi-temps. Attention, parce que la première mi-temps était presque plus sud-africaine qu'égyptienne, Aurélien Tirsain.
Absolument, des bonnes occasions, notamment avec Persito et son pied gauche qui a déclenché deux bonnes frappes à l'entrée de la surface de réparation, bien captée à chaque fois par le gardien El Shenawy. Un coup franc du même joueur sud-africain également dans la lucarne des cages d'El Shenawy, bien arrêté par le gardien égyptien. Et Mohamed Salah très discret. Il y a d'ailleurs un changement à la pointe de l'attaque égyptienne, Marwan Morsen, qui va laisser sa place à Ahmed Ali Kamel, donc un nouvel attaquant pour les Pharaons, pour essayer de débloquer cette situation. 0-0, la deuxième mi-temps va reprendre dans quelques secondes.
Et puis mi-temps entre l'Argentine et le Chili, on a revu l'altercation entre Messi et Gary Medel.
C'est Medel qui le cherche.
Oui,
c'était un combat
Messi,
de sumo. Tu sais, les sumo quand ils font poitrine contre poitrine là. Donc ils ont fait ça.
C'est sévère, rouge, sévère quand même.
Rouge pour les deux.
Rouge et sévère, surtout que Medel a découpé Messi 2-3 fois auparavant dans le match. Cartonné.
C'est un franchement. C'est vrai que Medel aurait pu prendre un rouge et pas Messi en fait.
Exactement. Ouais.
Exactement. Oui. J'avais une remarque à faire sur la Martinique et le statut de la Martinique dont on a parlé. J'en parlais à Fred. Si la Martinique gagnait la Gold Cup, elle est qualifiée pour la Coupe des Confédérations, qui est une compétition.
Non mais attends, parle devant le micro. Compétition qui n'existe plus.
Je crois que la dernière édition va se jouer en 2021.
Il y en a quand même une dernière.
Normalement, puisque la Coupe du Monde à 48 ou 50 ou 120, là, ça va passer en 2026. Donc, comme la France est qualifiée en tant que championne du monde pour la Coupe des Confédérations,
potentiellement.
Ça aurait été intéressant de voir comment la FIFA aurait arbitré ce sujet. Ça aurait, à mon avis, fait descendre tous les Martiniquais.
Ils vous auraient disqualifié.
Je pense qu'ils vous auraient disqualifié.
Ah oui. Ah, c'est clair. Ils auraient pris le finaliste.
Ce qui, là, pour le coup, est une injustice terrible. C'est plus le sport qui donne le mérite, c'est la politique.
J'avais une question sur Gary Boccali. Qui est de la famille de Mario, le sélectionneur.
Oui, parce qu'il jouait aux Aiglons, il a fait le 32e de finale.
Il a fait le 32e de finale.
Pourquoi tu l'as pas pris? Enfin, pourquoi vous l'avez pas?
Pourquoi on l'a pas pris? Parce qu'il y avait meilleur à son poste.
D'accord.
Tout simplement.
Et puis Gary,
il était vraiment en fin de carrière. Il est revenu quand même d'une grave blessure au genou.
Oui, on s'en rappelle. Ouais.
Et bon, il joue, mais sans. Tranquille, quoi.
Le vrai scandale, c'est l'absence de Kevin Diaz.
Ah oui?
Latéral gauche?
Bah ouais.
On en a pris un. Samuel Camille, je vous invite à aller voir ses stats. C'est pas mal du tout. Il a fait une très très belle.
Kevin peut jouer milieu gauche aussi.
Bah à la place de Kevin Fortuné.
Bah pourquoi pas.
Je sais pas.
Je sais pas.
Mais je pense. Je sais pas. Je pense pas.
C'est un très bon joueur, Kevin Fortuné.
Ouais, très très bon.
Bon, toi tu continues là, avec les matchs de l'automne là, t'es toujours team manager.
Ouais, bah on est toujours en collaboration avec Mario, comme il l'a dit. On va essayer de trouver et de parfaire un petit peu cette équipe.
Donc t'es un peu l'ambassadeur en fait de la Ligue martiniquaise ici quoi.
C'est ça. Avec ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pas, parler un petit peu avec les coachs, certains coachs.
Tous les deux ans la Gold Cup, hein, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Il a parlé d'RL, on va essayer de.
Donc là, c'est toi ton boulot, c'est d'aller les voir pour essayer de les convaincre ou de leur dire.
Mais j'ai pas besoin de les convaincre, enfin. J'ai pas besoin d'aller les voir et les convaincre. Il y a certains, je sais, qui ont envie de venir. Après, il faut plus convaincre les coachs et les directeurs sportifs.
D'accord, donc ton boulot, c'est
bon
plus
coup
ça.
D'avoir Christophe Herrel.
Bah, ça sera.
T'as déjà son frère qui vous. C'est ça, c'est ça.
Ouais, Dani, ouais. Bon. Dani qui est dans le milieu de terrain. Il y a Christophe qui serait
c'est un super joueur. Hein.
Et Anthony Modeste, c'est aussi le.
Ouais, pas mal, Anthony Modeste.
L'attaquant qu'il nous faudrait parce qu'on n'a pas ce profil-là.
Là, ton attaquant, il joue.
Il est où, Anthony Modeste? Il est revenu en Allemagne, c'est ça?
Par semaine, il joue dans le championnat local et là, il vient de signer en Thaïlande.
D'accord. Et Modeste, oui.
Modeste qui remonte à Cologne, avec okay. Cologne en Bundesliga.
Ouais, qui revient de Chine.
Qui revient de Chine, ouais.
Ouais, tu serais pas mal là. Bah, Fortuné, ça serait... avec Modeste devant. Non, ça serait une belle innovation.
Ouais, au niveau Concacaf,
tu.
Ah oui, c'est vrai. T'as Wesley Jobello.
Ouais, Wesley Jobello qui a pas pu venir là sur la Gold Cup parce qu'il a signé à Coventry.
Ouais.
En même temps, donc c'était un peu compliqué.
Au final, mais... il s'en sort pas mal. Hein. Il a une carrière un petit peu sinueuse en quittant l'Olympique de Marseille. Il a joué dans les pays de l'Est, c'est ça?
Il a joué à Clermont après Marseille.
Et il n'était pas parti en Bulgarie aussi?
Non, du tout. Non, là, écoute, c'est son premier transfert à l'étranger.
C'est un beau petit joueur en plus, je trouve.
Ouais, non, mais avec nous, il a été. génial.
Physiquement, il était énorme quand il avait intégré le groupe de Pro à Marseille. C'était lui qui était en tête de tous les tests physiques.
Là, Anthony, il cherche le nom du joueur dans le dictionnaire.
Wesley Jobello.
J'ai pas les noms de joueurs connus dans le dictionnaire.
Guéret voulait le faire monter.
Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que Anthony Modeste est aujourd'hui le joueur de foot martiniquais le plus riche?
Ah ouais.
Bah regarde. Maintenant c'est Fred Piquion. Attends,
le contrat en Chine là, il a pris grave là.
Bah il a dit ouais, il a pris grave, mais surtout il a pas pris beaucoup à la fin parce que il semble qu'il justement.
Ah, ils l'ont pas payé les gars.
Tous les joueurs reviennent à un moment donné.
Tu veux partir, mon métier, mais tu vas t'asseoir.
Du coup mauvais plan alors.
Ouais. Et puis les prud'hommes là-bas, ça doit être un peu compliqué peut-être.
Oui, je suis pas sûr que ça fonctionne.
S'il y en a.
Bon ben voilà, donc on suit la Martinique. Alors la finale États-Unis-Mexique, c'est dans la nuit de dimanche à lundi.
Dimanche à lundi.
Qui va gagner pour toi?
Bon, je pense que franchement, on a joué le Mexique. Ils sont passés en huitième, c'était compliqué. Ils sont passés au penalty, mais il y a une petite pièce quand même sur le Mexique. C'est quand même très fort. C'est quand même très fort.
Ils ont des bons joueurs, mais le problème c'est la motivation.
Bon, contre les États-Unis, ils auront la motivation. Parce que c'est quand même deux belles équipes.
C'est un derby.
Et c'est un gros derby, c'est souvent.
Voilà, d'ailleurs, je rebondis parce qu'il y a une petite actu liée à ce match de Gold Cup. C'est Megan Rapinoe, vous savez, la joueuse américaine. Qui a toujours des trucs.
Elle est pénible, elle. Hein.
Elle est pas pénible. Alors, je vais te dire, elle a plus de couilles que beaucoup de personnes.
Écoute, si elle bien pensant être un cliché du progressisme, c'est pas être pénible.
Non, non, progressiste, c'est un fonctionnaire.
C'est juste. Il la trouve pénible, c'est son avis. Tu la trouves génial, c'est ton avis.
Non, je la trouve pas géniale.
Mais c'est un cliché. Toutes les banalités progressistes, elle te les sort. Elle sort les clichetons en bouchant. Voilà. Elle est pénible, c'est tout.
Est-ce que Gilbert peut donner l'info, s'il vous plaît?
Pourquoi elle serait pénible?
Alors, elle a dit.
Pourquoi elle serait pénible de quelqu'un?
Attends, mais laissez-moi donner les infos déjà.
Mais ses opinions, c'est l'opinion de ce que pense la bien-pensance américaine quand elle s'exprime par exemple sur Donald Trump. Son discours n'est pas construit du tout.
Megan Rapinoe, donc celle qui est à la tête de la fronde des filles aux États-Unis, qui réclame l'égalité donc de traitement entre les garçons et les filles, ce en quoi elle n'a pas totalement tort, puisque aux États-Unis, l'équipe féminine génère plus d'argent que l'équipe masculine.
Non, mais là-dessus,
et les filles gagnent moins. Voilà. Bon, là-dessus, on peut la rejoindre. C'est elle qui a expliqué il y a quelques jours qu'elle n'irait jamais à la Maison Blanche tant que Trump serait là. Trump qui a répondu t'es gentil, mais d'abord essaie de gagner avant de venir venir à la Maison Blanche.
Le fait qu'ils disent moi je veux pas aller nul. Ces arguments sont nuls.
Mais oublie.
Lis-le en VO. Tu
non, mais dis pas le lire. C'est quoi ton avis sur le fait que tu la trouves, que tu trouves une joueuse
moins du jour quand même. J'ai pas fini. Et là aujourd'hui, elle dit il est totalement anormal que trois finales soient jouées le même jour, parce que demain dimanche il y a la finale de la Coupe du Monde féminine qui sera d'ailleurs sur RMC à 17h demain. Il y a la finale de la Copa América à 22h Brésil-Pérou, et il y a la finale de la Gold Cup dans la nuit avec donc l'équipe masculine des États-Unis face au Mexique. Et elle dit bah non, mauvaise idée, chez les garçons ce serait pas comme ça. Quand il y a la finale de la Coupe du Monde masculine, il n'y a pas deux autres finales le même jour.
Non, mais ça c'est totalement détaché, Gilbert, c'est l'opinion politique. Quand elle dit qu'elle veut pas aller à la Maison Blanche, parce que le locataire de la Maison Blanche lui revient pas.
Le problème, alors je vais te répondre François, le problème c'est que je pense déjà qu'il lit son explication, c'était dans le Times, en VO déjà, pas sous une mauvaise traduction. Et quand on lui demande pourquoi elle veut pas aller à la Maison Blanche, elle te dit juste, c'est juste que ce n'est pas mon président, il a peut-être été élu par une partie du peuple, mais moi je l'aime pas. Est-ce que je l'aime pas, c'est un argument? Est-ce que c'est un argument? Est-ce que remettre en cause un vote démocratique, c'est-à-dire qui a vu
après c'est la pas envie d'aller à la Maison Blanche, c'est son choix.
Élu. Oui, mais dans ce cas-là,
t'es pas obligé.
C'est démocratique de remettre en cause un vote. Dans l'interview, on lui pose des questions sur la politique extérieure des États-Unis. Elle est incapable de donner une explication rationnelle.
Attends, tu penses pas qu'en tant que homosexuel, cette fille a un avis un peu plus tranché sur la question par rapport à ce président-là, indépendamment de la géopolitique? Parce que
sur quel sujet? Sur le dossier de l'homosexualité et des LGBT aux États-Unis, mais je vois pas quelle est la position de Donald Trump qui est liberticide envers les LGBT. C'est un choix politique. C'est tout. Faut respecter le vote démocratique. Moi, je te dis
pas.
Ce que tu dis, t'as raison. Mais ces arguments-là.
C'est moi qui ai raison.
Non, mais.
Et que toi,
laisse-moi terminer. Ce que tu dis, t'as raison. Le problème, c'est que dans ce cas-là, elle a qu'à se positionner clairement en disant je suis membre du LGBT. Et c'est pour telle et telle raison par rapport au choix du président sur la communauté LGBT que je ne veux pas aller à la Maison Blanche. Mais elle n'ose pas le dire. Ah, respire un peu, c'est naze comme gros drapé.
Non, mais ça va être ça quand même. Allez, stop.
Ah oui, ça m'excite parce que c'est
comme quoi la Martinique mène à tout, hein, Fred. T'as vu,
on a parlé de Martinique, on arrive aux États-Unis.
Et au combat LGBT aux États-Unis. Voilà.
Mais c'est un cliché vivant, cette fille.
Voilà, t'as un cliché vivant.
Bon, elle jouera demain, en tout cas, hein, contre les Pays-Bas.
Oui, contre les Pays-Bas.
C'est une super joueuse de foot pour le coup.
Petit point Cannes. On y va tout de suite. Égypte, Afrique du Sud, Aurélien.
54e minute de jeu, toujours 0-0 entre les Égyptiens devant leurs 74 000 supporters et l'Afrique du Sud. Il se passe pas grand chose en termes de jeu, même si les Égyptiens ont un petit peu repris le contrôle du ballon, mais pas d'occasion nette. Mohamed Salah qui s'est encore essayé à frapper à 24-25 mètres en face des cages de Raven Williams, mais c'est encore contré par un pied, par un genou sud-africain. 0-0, c'est pas un grand match de football en termes d'occasion pour l'instant. 54 minutes de jeu et 20 secondes.
Fred, merci beaucoup d'être passé. J'ai pas mal de réactions sur Direct Studio. Tiens, regarde, je t'en lis quelques-unes.
Ouais.
Première réaction, Nono, qui me dit franchement, on s'en tape de la Gold Cup, vous avez pas un truc plus intéressant.
voilà. Merci, Nono.
Et puis juste après, j'ai ah, enfin, on parle de la Martinique, merci les gars, me dit Julien.
Voilà. Non, mais c'est gentil déjà aux médias,
quoi,
à RMC déjà de nous permettre de. Bah d'en parler, parce que bon, on n'en parle pas souvent, et c'est vrai, personne n'en a parlé cette année, à part RMC. Donc
bah écoute, c'est cool. Moi je trouve ça normal, d'autant que nous sommes excessivement podcastés en Guadeloupe et en Martinique.
Exactement, tout le temps, en plus c'est écouté, c'est vachement écouté, je pense que tout le monde a écouté là ce soir. Je vais recevoir pas mal d'appels tout à l'heure.
Merci Fred d'être
merci.
Passé.
Merci.
Nous, dans quelques instants, on parle de Griezmann. Il va au bras de fer avec l'Atlético. Qu'en pensez-vous? 32-16, il veut pas aller s'entraîner. On vous raconte tout ça dans quelques instants.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Anthony Quintela, notre after académicien, avec Jonathan Macardy, avec François Manardo et avec Lacan. Et l'Égypte qui commence à, comment dirais-je,
caca-culotte comme
caca-culotte comme dirait Jérôme Bretagne. Il y a toujours 0-0, mais on les voit plus trop, les Égyptiens, Aurélien Tirsin, dans ce match.
Une énorme occasion tout de même, il y a quelques secondes, on joue la 59e, toujours 0-0. Mohamed Salah qui a donné une passe incroyable de la droite du terrain, pile dans la surface de réparation. Il a effacé 4 joueurs sud-africains pour Trezeguet dans la surface de réparation, mais la frappe de Trezeguet arrivait directement dans les gants du gardien Raven Williams, alors qu'il était à quasiment au niveau du point de pénalty. Là, le vrai Trezeguet, il l'aurait probablement mis au fond. Là, c'est vraiment Mahmoud Trezeguet, on a vu la différence avec David Trezeguet. Donc toujours 0-0, là il y a un coup franc intéressant pour les sud-africains, on se rapproche de l'heure de jeu. 0-0, l'Égypte qui a un petit peu repris le contrôle du match, mais effectivement c'est beaucoup plus compliqué que prévu.
Alors, au milieu de terrain, ils sont en sous-nombre à chaque fois dans les phases de transition.
Bah, c'est Mohamed Salah qui doit tout faire. Il doit revenir au milieu du terrain pour remonter le bloc, et les deux autres attaquants, donc Mahmoud Trezeguet et Ahmed Ali, qui est entré à la place de Morsen. C'est pas beaucoup mieux.
Il faut
que Lanti qui passe nettement à côté des cages d'El Shenawy. Toujours 0-0, une heure de jeu.
Faut soit El Neni, soit Ahmed. Il y en a un qui faut, dans les phases de transition offensive, il faut qu'il fasse un petit peu en avant, qu'il se mette un petit peu plus entre les lignes, parce que sinon l'équipe elle est coupée en deux à chaque fois.
Bien sûr, tu nous appelles dès qu'il se passe un truc. Pendant ce temps-là, à la Copa América, il y a un coup de VAR là. Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé, parce qu'on a plein d'écrans devant les yeux, nous là. Donc, en tout cas, l'arbitre va voir l'écran. Je rappelle que Messi a été expulsé. Il y a peut-être, c'est peut-être pour un pénalty pour le Chili, peut-être.
C'est hors de la surface, non?
Il y a une faute limite surface qui pourrait peut-être donner un pénalty pour le Chili.
Charles Aranguiz.
Non, c'est sur la ligne.
C'est sur la ligne.
Pour moi, c'est quoi?
Non, c'est. J'arrive pas à voir de là. Grosse faute sur Charles Aranguiz.
Ah bah oui, mais c'est dedans là.
Bon, en tout cas 2-0 pour l'Argentine, toujours, je vous tiens informé s'il se passe quelque chose. On passe au mercato tout de suite.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le manger.
RMC, le mercato show. Le mercato show.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Alors, Griezmann, on va démarrer là-dessus.
Allez.
Pourquoi? Parce que Marca nous apprend aujourd'hui, et c'est quand même une info du jour, dans le monde du foot, qui concerne quand même Griezmann, la star de l'équipe de France. Griezmann n'ira pas s'entraîner demain avec l'Atlético. C'est Marca qui le fait savoir aujourd'hui. Alors, vous savez qu'il est convoité par le Barça. On vous a raconté hier les déclarations de Bartomeu qui dit oui, on est intéressé par Griezmann, il y a des réunions en cours. La réaction de l'Atlético hier qui dit nous, on est en colère parce qu'on a appris que dès le mois de mars, il y a eu accord entre Griezmann et le Barça sans qu'on soit au courant. Donc grosse colère de l'Atlético. Voilà, le joueur français a communiqué, dit Marca, il n'ira pas s'entraîner dimanche. Voilà, alors porte-parole de l'Atlético répond, qui communique ou qui communique pas, ça change rien. Il est sous contrat avec nous jusqu'en 2023, il doit donc se rendre à l'entraînement comme les autres demain. Donc en gros, s'il se présente pas, il sera sanctionné. Voilà. Par ailleurs, Marca explique que Griezmann a communiqué avec la direction de l'Atlético en disant qu'il était très triste et déçu personnellement quant à la tournure prise par les événements.
Oui, non, mais déjà, voilà. il doit aller s'entraîner. En plus, je ne comprends pas bien l'intérêt du bras de fer, là, parce qu'il a annoncé déjà qu'il partait et le club, a priori, est d'accord avec ça. Donc, c'est quoi l'intérêt d'aller au clash avec si le club alors que le club est d'accord?
C'est pas si clair que l'Atlético est d'accord, là, aujourd'hui. Mais tu vois,
alors, le problème, c'est que l'Atlético.
Ils sont vexés par le fait qu'il y a eu accord secret. En fait, entre Griezmann et Barça,
il y a une clause. Et en Espagne, on sait que quand tu as une clause dans ton contrat, il suffit que le joueur, qu'un club fasse une offre qui rachète la clause, et à partir de ce moment-là, le transfert est inéluctable. Le problème de cette histoire-là, c'est que c'est mal géré depuis le début. Là, on a une espèce de collection symbolique de tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu es joueur de foot, que avec nos anciens champions du monde, que ce soit Adil Rami en termes de communication ou Antoine Griezmann là en termes de communication et de gestion de carrière. Antoine Griezmann a. Le vrai problème, c'est qu'il n'est plus entouré. Depuis qu'il s'est séparé d'Olert, sa sœur est peut-être très gentille, mais
les choix de carrière qu'il a découvert, avec qui il était à Sociedad et tout.
Les choix qu'il fait depuis deux intersaisons, que soit cette vidéo pour annoncer sa décision avec ce suspense à deux balles, sa décision de finalement rester à l'Atlético de Madrid avec un contrat énorme, et là le fait de faire volte-face une année après pour aller au FC Barcelone, d'annoncer son départ de l'Atlético de Madrid avant même que le FC Barcelone n'ait mis en place le mécanisme pour acheter de la clause à son club, c'était suicidaire parce que il s'est avancé beaucoup trop vite. Alors il pouvait pas anticiper ce qui se passerait. Alors on sait que le vestiaire barcelonais est pas forcément hyper réceptif à son arrivée. On sait qu'entre temps,
tu
as l'affaire Neymar qui fait que Neymar est peut-être sur le marché et que donc le FC Barcelone veut mettre cet argent-là sur Neymar, mais c'était suicidaire ce qu'il a fait.
Je peux pas imaginer qu'il annonce qu'il quitte le club sans que l'Atlético soit d'accord. Il a forcément convenu avec l'Atlético.
Ils ne sont pas être d'accord. Il y a une clause. À partir du moment où la clause, il y a un club qui se ramène avec les 120 millions de la clause.
Oui, mais je pense qu'il les a quand même prévenus. Il leur a dit attention, moi je m'en vais, et je vais te dire que je vais partir, et voilà. Mais il a pas annoncé ça. Ils l'ont pas appris en même temps que nous.
Ça, on est d'accord. Mais pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs, c'est que à partir du moment où un joueur en Espagne a une clause, si un club arrive avec le montant de la clause, c'est terminé. Le club qui possède les droits du joueur n'a rien à dire. Donc l'Atlético, là, pour le coup, Griezmann, il a vraiment le cul entre deux chaises, parce que s'il ne va pas au FC Barcelone, là, je pense que le divorce est consommé avec l'Atlético Madrid. Et pour trouver une autre porte de sortie, sachant les exigences qu'il a, tant au niveau du salaire que des exigences dans conditions de vie que sa femme a, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas quitter l'Espagne, on se demande où il peut aller.
Non, mais ton avis, François ?
C'est un épiphénomène. Enfin, ce qui est en train de se passer avec le fait qu'il sèche l'entraînement demain, ça va. Hein. Ça me rappelle un peu avec Thibaut Courtois, avec Chelsea. Ça va durer quelques jours, une semaine tout au plus. Et puis le Barça, s'ils décident et qu'ils officialisent le fait de payer cette putain de clause de 120 millions d'euros, ça se met sur les rails. Et puis après, ça va avancer. Et peut-être qu'ils vont déduire en le temps où il n'aura pas fait l'entraînement, ils le déduiront sur une prime ou quelque chose comme
après,
ça.
Après, c'est toujours un peu regrettable. Il est très identifié à Atlético maintenant.
Oui.
Il a fait des beaux
trucs.
Avec la clause, il n'y a aucun intérêt à aller au clash. Il y a une clause. S'il la paye, il libère le joueur. Quel intérêt il y a de sécher l'entraînement?
Et pour être précis, en fait, le problème, c'est que le FC Barcelone veut payer la clause, mais demande l'échelonnement du paiement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas payer les 120 millions d'euros tout de suite, sachant que l'Atlético de Madrid, même s'ils ont une importante trésorerie, ont investi beaucoup d'argent sur Joao Félix. Ils veulent encore être actifs sur le marché des transferts. Et voilà,
70,
c'est ça le problème.
Joao Félix.
Ouais, c'est déjà beaucoup.
Oui, bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Mais y a un truc que tu as dit, Gilbert, par rapport à cette affaire-là, c'est la communication de Griezmann. Il a dit qu'il regrette la tournure prise.
Oui.
Mais c'est lui, qui décide de ne pas se présenter à l'entraînement.
En effet, c'est lui.
Qu'est-ce qu'il peut regretter puisque c'est son propre chef.
Je pense qu'il regrette le communiqué de l'Atlético Madrid hier, qui quand même le désingue pas mal en disant Antoine Griezmann a manqué de respect aux millions de supporters de l'Atlético. Mot pour mot, c'est ce qui est écrit dans le communiqué. Après, le problème de Griezmann, à un moment donné, le garçon c'est le meilleur joueur de football, c'est notre meilleur footballeur en France, mais il faut qu'il s'entoure beaucoup mieux. Là, depuis deux ans, c'est un désastre sa communication, ses choix de carrière. on peut en discuter, mais si t'as un vrai conseiller sportif, il te dit attends d'avoir signé avec ton nouveau club avant d'annoncer ton départ, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Le marché des transferts, notamment sur le marché des joueurs à plus de 100 millions d'euros, il est assez mouvant. C'est quelque chose qui est jamais sûr. On l'a vu par exemple avec la signature de Neymar au PSG, où il y a pas mal de rebondissements. Là maintenant, s'il a un vrai conseiller, il doit jamais faire cette vidéo amateur filmée et postée sur le compte YouTube de l'Atlético au mois c'était en juin, fin mai. Même fin mai. Non, c'était beaucoup trop prématuré.
Le fait qu'il ne se présente pas à l'entraînement,
c'est scandaleux.
C'est quelque chose qui lui ressemble. D'abord, ça ne ressemble pas.
Ça ressemble pas, exactement.
Nous, vu la France, bah oui. Je pense, vu l'Espagne aussi. Et ça va forcément le desservir, non pas seulement par rapport à sa relation avec ses futurs anciens les supporters des Colchoneros.
C'est mort.
Mais aussi, tu te dis, quand tu es le Barça, tu te dis, bon, alors lui, 2 ans, 3 ans, et puis il peut nous faire la même chose. Ça, c'est regrettable.
C'est pas faux. Tiens, on a Manouk qui est là, qui est supporter de l'Atlético. Bonsoir.
Bonsoir. Salut
Manouk.
Salut. Quand t'entends ça, toi, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un peu déplorable ou tu te dis, bon, de toute façon, c'est inéluctable ?
Comme je disais à Adrien au standard, moi, je suis assez dégoûté. Griezmann, il est grand temps qu'il parte. Déjà l'année dernière, avec son histoire de vidéo, comme
la décision.
Et vous en plateau, il a fait durer le maximum. Avec un truc 100% amateur pour voilà, il pensait faire une bonne com, au final c'était désastreux. Là, c'est lui-même qui s'est avancé très tôt dans la saison, avant même le début du marché des transferts. C'est un joueur sous contrat, il a dit qu'il partait. Très bien, mais s'il part, ça veut dire qu'il a soit un accord sûrement oral du Barça qui dit on va payer les 120 millions. S'il y a rien qui est ficelé, il fallait pas qu'il s'avance. Maintenant l'Atlético a besoin de reconstruire une équipe, il y a eu beaucoup de départs. Donc ils ont besoin de liquidité aussi. Donc il faut pas que ça s'éternise, il faut pas que ça traîne. J'espère que vous avez raison quand vous dites bon, ça c'est une histoire de quelques jours, quelques semaines, et puis ça va se régler. Parce que moi je le vois pas du tout en tant que supporter de l'Atlético reporter le maillot de l'Atlético.
Ah bah non, c'est impossible.
Je
c'est impossible.
Pas, c'est le problème, club, après, hein, c'est foutu, là. Il nous a rendu des grands services, mais sa com est de plus en plus.
Il a gâché la fin de son histoire.
Et moi ça me fait rebondir sur un truc. C'est l'entourage des joueurs par leur famille, parce qu'on voit de plus en plus avec le cas Rabiot, voilà, c'est une chose.
Là, c'est
les
ça
joueurs
sert.
Qui s'entourent de leur famille, est-ce que leur famille elles sont bien armées pour affronter voilà le monde du football et les
sa sœur est très jeune en plus, hein. Elle a 31 ans.
Mais attention, oui, sa sœur n'est pas son agent. Sa sœur s'occupe de sa com.
Sa sœur, alors il y a dans le communiqué de l'Atlético Madrid, il est écrit nous avons informé sa sœur en sa qualité d'agente.
Ah, ça a changé alors.
Et c'est sa sœur qui est son agent. Sa sœur n'est plus juste sa conseillère de communication, sa sœur est son agent.
Ah.
Que ce soit bien clair. Maud Griezmann est l'agent d'Antoine Griezmann.
Nouveauté.
Et l'after, je sais que moi, je l'écoute tous les jours, et si vous pouvez faire un de ces quatre, un débat durant l'été là, sur justement l'entourage des joueurs et le rôle d'agent, l'évolution du rôle d'agent, je pense que ça peut être intéressant, parce que Neymar...
Bah écoute, tu sais qu'on a déjà abordé cette question avec Yvan Lemay il n'y a pas si longtemps, qui explique aussi, lui, que c'est un vrai problème, surtout que souvent tu as des cousins, cousines ou oncles, tantes ou je sais pas quoi, qui deviennent effectivement agents, et en gros, c'est pour croquer en famille, quoi.
Bon,
je schématise, mais...
Même des bouchers, je te rappelle Tonton Adil.
Ah, Tonton Adil,
Tonton
oui.
Adil, le boucher d'Orléans.
Florian Thauvin.
Florian Thauvin, ouais.
Donc, bon, bah voilà, ça se passe comme ça, malheureusement.
Il vaut mieux qu'ils prennent un vrai agent qui arrive à croquer 2% en plus et qui redistribue après à ses cousins.
Exactement. Et moi, je m'inquiète pour la suite de la carrière d'Antoine Griezmann, parce que, admettons, regarde, ça me semble, pour l'instant, ça semble pas être l'hypothèse qui se dégage. Mais admettons que le FC Barcelone s'engouffre sur la piste Neymar. Ok ? Griezmann n'ira pas au FC Barcelone dans ce cas-là. Et si c'est pour, admettons, donc ce qui se dit, c'est que Griezmann finirait au Paris Saint-Germain. Mais je suis désolé, je vais encore pas me faire des amis, mais de passer de l'Atlético Madrid au PSG, c'est une grosse régression. Qu'on soit bien clair.
Tu passes d'un club. Tu dis pas ça parce que t'es Marseillais.
Non, pas du tout. Tu passes d'un club qui est habitué à être dans le quart et final de la Ligue des Champions, à un club qui pour l'instant ne passe pas le quart. Donc pour Antoine Griezmann, ça serait une très grosse régression. Donc moi, je suis inquiet pour lui, parce qu'il y a un Euro qui arrive la saison prochaine, à l'intersaison prochaine. On a besoin d'un très grand Antoine Griezmann, c'est notre meilleur joueur. Donc à partir du moment où ton meilleur joueur aborde une saison comme ça qui est décisive, en plein doute et en pleine incertitude, c'est jamais bon.
Oui, et puis dans une situation où c'est un joueur très cher, et c'est très particulier, parce que si c'est pas le Barça qui
aussi.
Et si c'est pas le Barça qui l'achète, mais qui peut acheter Antoine Griezmann? Il peut pas rester à l'Atlético s'il va pas au Barça, il peut pas aller au Real.
C'est pour ça, l'hypothèse que Fred Hermel avait lancé,
c'était, il y a pas beaucoup de clubs,
c'est à mon avis, il y a des chances que ça se termine au Real Madrid, cette affaire. Le Real Madrid, c'est le seul club qui a la surface financière pour racheter sa clause et pour lui offrir le salaire qui serait.
Comme disait Gilbert, il est très identifié à Atlético.
Il aurait double mauvais goût.
Il pourrait aller au Real.
Il aurait double mauvais goût. Son départ de l'Atlético
serait catastrophique.
Je pense qu'il ira au Barcelone.
François, quelqu'un de l'entourage d'Antoine Griezmann avait dit à Fred Hermel, écoute, si Antoine va au Real, chose qu'il voulait faire avant d'aller à l'Atlético Madrid, le match contre l'Atlético, c'est juste deux fois par an.
Ça peut être il sera en place de Benzema, comme ça c'est pas mal.
Ou la Ligue des Champions.
N'exagère pas.
Ça peut faire 5 fois par an avec la Coupe et la Ligue des Champions.
Et voilà, c'est ça, même, c'est 5 matchs par an. Quoi.
Manouk, t'as tout dit ?
Ouais, bah écoutez, continuez comme ça, les gars.
Tiens, j'en profite pour te faire notre questionnaire magique. T'es supporter de l'Atlético, je te donne des pouvoirs magiques. On fait ça maintenant tous les soirs dans l'after, j'adore. Je te permets de recruter dans ton club tout de suite un joueur n'importe lequel d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, le mec qui t'a fait rêver.
C'est bon,
qui tu prends ?
Bah, comment refuser Messi, j'ai envie de dire.
Très bien.
C'est un peu l'évidence.
Et ben échanger Griezmann contre Messi alors.
Avec tes pouvoirs magiques, je te permets maintenant de choisir qui tu veux, absolument qui tu veux dans l'histoire du foot comme entraîneur. Tu prends qui ?
Comme entraîneur, rien que pour revoir son déhanché, Luis Fernandez.
Oui, Luis Fernandez.
C'est une bonne réponse.
Bah oui, énorme.
Je m'attendais pas. Oui, pourquoi pas. Ouais.
Il risque de te mettre Messi sur le banc.
Ça lui fera plaisir.
La soupe à soupe, c'est le déhanché. C'est tout.
Ah oui. Et puis dernière question, avec ton pouvoir magique, tu peux faire disparaître de la planète football un personnage qui t'énerve, un joueur, un coach, un consultant, n'importe qui. Qui est-ce que tu dégages ?
Des Roland de Coupe du Monde, Materazzi quand même.
Materazzi, ça revient pas mal, ça. Hein.
Ouais.
Les deux qui reviennent le plus, c'est Materazzi et
Domenech.
Et Domenech. Et oui. Ouais, merci Manouk.
Ciao Manouk.
Merci.
Salut Manouk.
Bonne soirée à tous.
Salut. Ouais.
C'est bon le coup de la baguette magique, j'aime bien ça.
Ah, t'aimes bien ? Ah, oui, tiens, on va le faire pour toi, tiens. Oula. Toi qui es supporter de l'OGC Nice.
Ouais.
Quel joueur tu prendrais qui est maintenant là à Nice ?
Avec son niveau d'avant.
Qui joue
vivant, mort.
Cyril Roll, attends, t'es niçois.
Cyril
Roll, reprends-le.
Déjà, c'est François qui parle et pas toi.
Cruyff.
Entraîneur, tu prends qui ?
Guardiola.
Qui ça ?
Guardiola.
Guardiola. Oui, Cruyff pour alimenter Mouchou.
Je dégage.
Et qui tu dégages ?
Joker.
Oh non !
Oh là là, non.
Non.
T'as pas le droit.
Joker. T'as pas le droit. Il n'y a pas de joker dans ce jeu, mon petit François.
Alors, ça, c'est un entraîneur ou un joueur ?
N'importe qui, un mec qui t'énerve. Ça peut être un consultant, un journaliste, un arbitre, qui tu veux.
Laisse-moi y réfléchir un petit peu. Il y a beaucoup de gens que j'aime pas, donc. Non, je déconne. Qui je dégagerais ? Je vais me fatiguer à dégager un mec que j'aime pas.
Moi, j'ai lu ton bouquin, il y en avait quelques-uns.
Bah, le bus, dégage le bus. Ouais.
Si je remonte le temps, j'en dégage beaucoup.
Mais vas-y, mais sors un nom là.
Des joueurs. Tu penses à des joueurs?
Non, mais bon, le sélectionneur, le président de l'époque, même si
Domenech, Escalette.
Je pense à lui parce que je sais qu'il est pas en pleine forme. Et voilà, je profite pour le saluer. Mais non, mais moi
mais
j'ai
tu
pas
le dégages
de...
quand même.
Ouais, mais j'ai pas d'animosité particulière. Ouais, voilà.
Très bien.
J'ai autre chose à foutre que passer mon temps à avoir des rancœurs.
Très bien. Voilà sur Griezmann. Ça réagit pas mal quand même sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. On va conclure le débat dans quelques instants. Mais d'abord, le point sur Égypte-Afrique du Sud. Aurélien Tirsin.
Et ça se tend. Tension pour les 74 000 supporters du stade international du Caire. Toujours 0-0. Il reste 16 minutes à jouer. Toujours pas d'occasion pour les Pharaons. Et par contre, les Sud-Africains, sur quelques contres, ont eu deux énormes occasions. La tête notamment du capitaine Latshwayo, le capitaine sud-africain qui voit sa tête passer à quelques centimètres du poteau droit d'El Shenawy. Également Lorsch qui a eu le ballon seul dans la surface de réparation et sa frappe à rater a terminé dans les gants du gardien égyptien qui fait un bon match heureusement pour les Pharaons. 15 minutes encore à jouer, toujours 0-0 pour une place en quart de finale de la CAN.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, le Chili a marqué un pénalty de Vidal, 2-1 désormais pour l'Argentine face au Chili. On me dit sur Direct Studio que alors j'ai pas le, ce serait le deuxième carton rouge uniquement de la carrière de Messi.
De Messi. Ouais.
Oui, oui.
Ce soir.
Et c'est une faute très grossière de Lo Celso sur Arangui.
Donc, il y a le pénalty. Ouais. Oui, c'est ça le coup de VAR de tout à l'heure.
C'est Lo Celso qui fait un espèce de croche-patte.
Franchement, c'est limite surface de réparation.
Oui, c'est limite. Moi, je voyais ça comme un coup.
La ligne en plus fait partie de la surface, non ?
Oui.
Donc, logiquement.
Un petit balai.
Pour toi, c'est surface.
Hmm,
bon, d'accord.
Oui.
Griezmann, pour conclure sur le dossier, pas mal de réactions sur Direct Studio. Déjà, j'ai Audrey qui nous écrit et qui nous dit effectivement, Maude Griezmann a passé ses diplômes pour être l'agent de son frère. Elle l'a précisé dans une interview récemment. J'ai pas mal de réactions négatives quand normal. Même sur Griezmann. Mousse qui me dit voilà comment fracasser 5 ans d'amour dans un club. J'attends avec impatience le match Atlético Barça. Ça nous rappellera Figo en 2000. Voilà ce qu'il me dit. Et puis Madjer qui me dit pour moi Griezmann est dans le top 3 des plus gros footix. Alors bon, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être rapport à Paris-Marseille, est-ce qu'il avait dit
C'est un mec qui est quand même à la fois pour l'Olympique Lyonnais, à la fois pour l'Olympique de Marseille. C'est un peu particulier.
Et pour Peñarol, le club de Montpellier.
Et pour Peñarol, exactement, ouais.
Oui, bon, après, ouais. On a tous une petite affinité. En France, t'as qu'un club, mais après.
Tu peux pas être pour l'OL.
Des fois, t'as un club que t'aimes bien, parce que t'es allé le voir en vacances.
Tu peux pas être pour Nice et pour Marseille, c'est pas possible. Pour Nice et Monaco en même temps.
Ça, c'est vrai.
Compliqué. C'est comme le fils de joueur breton qui met des shorts de l'OGC Nice. C'est impossible.
Le fils de qui?
De Jay.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas possible. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec l'OM au programme. Et on va aussi parler arbitrage avant 23h, puisque François va revenir sur l'arbitrage de la Coupe du Monde féminine. A tout de suite dans l'After.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
François Bellardo est là, Jonathan McCarthy est là, Anthony Quintela, notre vainqueur de l'After Academy, est là également. Et on a deux matchs en cours toujours, notamment la CAN, le match Égypte-Afrique du Sud. Attention, parce qu'on pourrait assister à une énorme surprise. Aurélien Tirsain, il y a toujours 0-0, mais c'est très très serré.
Et effectivement, l'Égypte qui galère, il reste 10 minutes à jouer, toujours pas de but et pas d'occasion avec un Mohamed Salah extrêmement discret devant donc les 74 000 supporters du stade international du Caire pour soutenir les Pharaons. Qui sont à domicile, qui ont tout pour aller très loin dans cette compétition. Mais aujourd'hui, ils butent sur une bonne équipe d'Afrique du Sud qui est plutôt surprenante, qui avait perdu 2 matchs sur 3 lors du premier tour et qui résiste très très bien. Attention, le ballon là, peut-être pour Mohamed Salah dans la surface de réparation, mais le gardien Raven Williams qui fait un match parfait pour l'instant pour les Bafana. Et donc toujours 0-0, 9 petites minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Et pendant ce temps-là, la Copa América, toujours 2-1 pour l'Argentine face au Chili. Là aussi, il reste 10 minutes à jouer. Alors, on était sur Griezmann, on va maintenant parler de l'OM. Pourquoi ? Parce que Jonathan, ce soir, voulait développer un avis spécifique sur l'Olympique de Marseille. Je crois même qu'on a un jingle McCarthy. On en a plein en magasin, donc on en ressortira comme ça au hasard.
T'as une ouverture en profondeur d'Aouar, et puis Dubois n'y va pas, Depay n'y va pas, il se regarde les yeux en chien de faïence.
Il se regarde
chien
les
de
yeux.
Faïence.
Il se regarde les yeux en chien de faïence.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Très bien.
Mais en chien de faïence, ça existe.
En chien de faïence, ça existe. Mais les yeux en chien de faïence, non, c'était une saucisse. J'ai trop écouté Moscato Show, c'est pour ça.
Donc, pourquoi est-ce que ce soir, tout à coup, tu voulais parler de l'OM ?
Parce que nous sommes.
Alors, on sait qu'au Campo, c'est parti et que t'es dégoûté, mais.
Nous sommes simplement le 6 juillet et dans l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille, il n'y a toujours que 2 défenseurs centraux, plus éventuellement Adil Rami et Valère Germain est toujours l'avant-centre avec en doublure Clinton Enji. Non. Plus généralement, on va tirer un petit bilan de Champions Project et compagnie, là, hein, parce que ça fait 2 ans et demi que la nouvelle direction est arrivée. Jacques-Henri Hérault. Franck McCourt, il y avait Rudy Garcia et Andoni Zubizarreta. Rudy Garcia, fort heureusement, n'est plus. Mais moi, j'aimerais tirer un petit bilan. Alors, il faut dire que quand ils sont arrivés, quand Jacques-Henri Hérault est arrivé, on était relativement enthousiastes à Marseille. Pourquoi ? Bon, bah, même les PowerPoint qui maintenant sont décriés, les gens disaient « Ah, ça fait pro, enfin un président qui s'exprime bien, qui a des idées construites, on sort de l'amateurisme dans lequel on était un petit peu auparavant. » Il y avait le sponsoring avec Puma qui avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Mm-hmm. Il y avait ce projet, la DOM Nation, qui voulait développer le supporterisme de l'OM à travers les frontières de l'Hexagone. Bah ça, tout le monde disait que c'était génial. La reprise en main des tribunes, oui. Il y avait quand même un petit peu d'enthousiasme là-dessus. Et puis, tu te disais « On va être ambitieux sportivement, on va avoir une enveloppe, on va dépenser de l'argent avec la fameuse phrase. » Vous avez des sous, voilà. Alors vous allez mettre des sous.
On a l'extrait, hein, tu sais, on va te le retrouver.
Ouais, exactement. Et là, 2 ans et demi plus tard, quand on tire le bilan, c'est pas un spoiler quand je vous dis que le bilan il est morose et désastreux. Quand on regarde tous les projets extrasportifs qui devaient restructurer le club, au mieux, ça a tourné au ridicule. L'OM Nation, un flop. Je vous prends la liste des mécontents qui ont acheté le pack OM Nation, qui vous diront bah on a reçu un pauvre mail avec un QR code à scanner, mais au final pas grand chose. Effet d'annonce, rien du tout. Le marketing, bah ouais, il y a eu du mieux, ça, parce que bah de toute manière il y avait pas grand chose qui était fait avant. Mais le marketing, au final, quand je regarde, un gros flop aussi. On va rappeler l'histoire du tunnel qui avait été repeint avec les petites phrases un seul Olympique, et puis fatalement t'as l'Olympique Lyonnais qui vient, qui colline dans sa Marseille au Vélodrome, et puis le community manager de l'OL qui prend en photo, ah ouais, un seul Olympique les gars, c'est l'Olympique Lyonnais. Quand tu regardes aussi la restructuration du maillage du club, club. Tu avais ce projet qui était intéressant, ce qu'ils appelaient Next Gen Project. Faut mettre des anglicismes partout, ça fait bien et pareil. Next Gen Project, c'était régénérer les liens entre le club, l'Olympique de Marseille et tout le tissu régional. Parce que
t'as Next
tous les
clubs Gen locaux. Project, ça sonne mieux que Prochaine Génération Projet.
Ouais, mais tu t'es pas obligé de forcément donner un nom à la con à ton truc. Donc même ça, moi ce que j'ai fait, j'ai parlé avec deux trois personnes qui s'occupent de sites à Marseille, deux trois journalistes à Marseille. Franchement, les clubs locaux, ils sont assez circonspects et non pas circoncis, François. Ils sont un peu circonspects sur les modalités de fonctionnement. Et puis t'as eu tout ce flou à la tête du centre de formation de l'OM. Nasser Largué, qui est un très bon formateur, qui a été nommé mais il y a seulement quelques semaines, alors que ça aurait dû faire si tu travaillais bien fin mai. Bon, bref, les clubs locaux, le Next Gen Project pour eux, c'est du flan, c'est un flop, c'est encore un effet d'annonce. Et quand on regarde l'ère de Jacques-Henri Hérault, c'est, je veux pas lui taper dessus, c'est vrai que j'en parle beaucoup, j'en ai beaucoup parlé cette saison. Mais le problème, c'est ça, c'est que t'as beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de blabla, mais des résultats qui sont médiocres à l'image de l'équipe première. Et là, on en vient un petit peu au nerf de la guerre, c'est cette équipe première. Alors, on va en parler. Alors, outre le choix de Garcia, on avait tous prophétisé que ça allait être une grosse catastrophe, Rudy Garcia. Bah, t'avais cette petite phrase qui a été prononcé. L'effectif a été bâti en dépit du bon sens. Nous, on arrive avec de l'argent, on va remettre les choses à plat. Bon, bah, quand tu regardes 200 millions d'euros investis plus tard, on a tous bu une tisane, hein, pour au final finir avec Mitroglou comme avant.
La catastrophe pour l'Egypte, l'ouverture du score pour les Sud-Africains, 85e minute de jeu, et Lorch seul face au but décalé par le Strasbourgeois, les Momotiba, vient tromper El Shelaoui, le gardien égyptien. 5 minutes à jouer simplement pour les Pharaons, pour essayer de revenir dans ce 8ème de finale de la CAN, 1-0 pour l'Afrique du Sud.
Incroyable. Et le 9, il a le maillot dans le short, t'as vu?
C'est oui, bah c'est Motiba, je suis pas Motiba, c'est le seul mec qui joue encore avec un maillot dans le short. Ça n'empêche pas de marquer les buts avec Strasbourg, mon vieux. On voit le but. Et là, il y a un défenseur en couverture. Il y a un défenseur en couverture qui est 15 mètres derrière.
Regarde,
le numéro 6, là,
c'est Ahmed Egazi qui était resté en couverture.
Il n'a pas le droit, s'il est pour lui, le but.
Et les Égyptiens ont fait rentrer 3 joueurs offensifs à la place de milieu récupérateur depuis une dizaine de minutes. Et voilà, l'équipe est complètement déséquilibrée.
Ça va être compliqué.
Bon, alors là, fin de match, si l'Égypte est sortie des 8e, c'est le coup de tonnerre. En deux jours, Égypte et Maroc. On en reparlera d'ici minuit, hein, bien sûr. Si le score se confirme, en tout cas 1-0 pour l'Afrique du Sud. Tu peux conclure sur l'OM ?
Alors, pour conclure, on va parler du sportif. Quand on nous avait dit l'effectif a été battu en dépit du bon sens, 200 millions d'euros plus tard investis, les gars buvaient une tisane, vous allez voir, on va prendre un grand attaquant, au final fini avec Mitroglou. Quand tu regardes comment l'équipe est faite, je le rappelle, avec juste pour l'instant deux défenseurs centraux, en partant du principe qu'Adil Rami ne va pas être conservé, et Valère Germain en neuf avec Clinton Engie, écoute, il y a la vente d'Ocampos, ça m'a un peu attristé, mais c'est la figure de proue de ce qui se passe actuellement. Tu vends tout ce que tu peux vendre pour des sommes qui dépassent pas forcément les 20 millions d'euros. Donc toute la gestion de Jacques-Henri Hérault, pour conclure, pour moi son problème, c'est que son ère, elle est marquée par le péché d'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui ont été à l'Olympique de Marseille qui disent, ben, être à la présidence de ce club-là, ça peut te rendre un peu fou, ça peut te faire perdre un petit peu tes moyens. Et là, quand on dresse le bilan, très franchement, Jacques-Henri Hérault, ça a été effet d'annonce sur effet d'annonce, orgueil sur orgueil, comme quand il avait prolongé Rudy Garcia au mois d'octobre, alors qu'il fallait attendre au final pour le licencier il y a quelques semaines pour 10 millions d'euros. Et Jacques-Henri Hérault, on se rappelle, hein, quand ça avait été, ce choix avait été contesté, la première victoire contre Caen, contre l'ogre Canet, c'était « Ah, bah, vous avez vu, j'avais eu raison !» Alors, pour dresser le bilan, très franchement, dans la structuration du club, c'est mauvais. Dans la construction d'une équipe compétitive, c'est mauvais. Dans la construction sur le moyen terme, c'est cataclysmique. Et moi, ce que je vois, c'est que le M Champion Project, bah, il est mort. C'est le low cost project. Alors, si j'ai, pour conclure, un petit conseil avec toute l'humilité que je peux avoir à donner à Jacques-Henri Hérault, c'est Jacques-Henri Hérault, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Arrêtez d'avoir des ambitions qui collent pas avec votre expérience, qui est quasiment, qui est équivalente au néant dans le monde footballistique. Rangez votre orgueil et votre tisane dans votre poche. Arrêtez les petites phrases ridicules qui ridiculise le club, hein, on se rappelle le tir à l'extérieur de la surface qui vaudrait deux buts. Et très franchement, faites preuve de recul, faites preuve d'humilité, entourez-vous mieux. Et l'OM, c'est un grand club, ça peut pas juste être que des petites formules marketing et des anglicismes dépassés, parce que là, le club, il est en train de mourir.
Bon, je te réponds quand même, juste avant que François, Anthony prennent la parole, Jacques-Henri Hérault, c'est quand même une finale de Coupe d'Europe. Dans la vie d'un club, c'est pas tous les jours.
Épiphénomène. Tirage au sort favorable.
La Coupe d'Europe, c'est un
Leipzig phénomène. Et Salzbourg à la place de l'Atletico, bah d'Arsenal, oui, bah bon, de la Lazio.
Tu veux, tu choisis pas tes adversaires.
Pourquoi non, mais même épiphénomène de quoi? Il est responsable. Il a entraîné l'équipe, il a joué.
Jacques-Henri Hérault dans le club.
Noël Le Graët, il a quoi comme mérite dans le fait d'être champion du monde?
Ah non, tu peux pas enlever le. Tu peux pas enlever
un bon sélectionneur.
Tu peux pas. On peut pas.
Ça c'est sûr.
Dans des titres, on ne peut pas enlever le mérite des dirigeants qui ont choisi les hommes qui ont fait les titres.
Oui, c'est, allez, ah, c'est 1% quand tu gagnes et c'est 10% quand tu perds.
Là où moi je...
Alors, Anthony, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan ?
Bah, sur le constat que c'est un échec, on peut que être d'accord. Après, moi, là où je ne te rejoins pas, par exemple, sur Rudy Garcia, je me rappelle qu'à l'époque où il arrive, il faut se rappeler qui est l'entraîneur de l'OM et qui vient remplacer.
C'est Franck Passy.
À l'époque, je pense que les supporters de l'OM sont plutôt contents qu'il y ait un Rudy Garcia qui vienne. Surtout qu'il n'a pas un CV dégueulasse, hein, Rudy Garcia. Quand il arrive, il a fait quelques belles choses quand même à la Roma, même si ça s'est mal fini. Mais
je vais te répondre très très simplement. Tu regardes le bilan de Rudy Garcia dans les matchs contre les top 5 en Italie et les matchs en Ligue des Champions, c'est valise sur valise sur valise sur valise sur valise sur valise. Et surtout à l'AS Roma, le problème c'est qu'il avait très bien commencé en battant le record de victoires d'une équipe en Serie A. Je crois que c'était 10 victoires consécutives. Mais le problème, tu regardes la fin de son aventure, il est totalement pété un boulon, à s'afficher sur les réseaux sociaux, à étaler sa vie avec la présentatrice de l'AS Roma. Et surtout, il avait perdu son groupe. Totalement son groupe. Et là où vraiment ça aurait dû alerter Jacques-Henri Hérault, c'est qu'il a fait n'importe quoi à la Roma à partir du moment où il a eu le plein pouvoir sur le mercato en faisant venir des joueurs qui avaient tout simplement pas le standing de la Roma.
Conclue, vas-y.
Oui, je me répète, mais à l'époque, t'avais Franck Passy comme entraîneur. Donc je pense que Rudy Garcia, c'était pas un mauvais choix. Et je voulais juste dire un truc sur parce que tu attaques Jacques-Henri Hérault sur sa com et le fait qu'il soit un peu hautain et tout, mais on s'en fout de ça. C'est effectivement son travail qui est pas efficace, mais je prends un mec comme Aulas, qui est un président qui est hyper clivant, assez antipathique. Moi, à chaque fois qu'il parle, j'ai envie de lui mettre du tabasco dans les yeux, il m'énerve. mais il fait du travail, et il fait un travail exceptionnel. Oui. Et t'es obligé de dire,
Anthony,
bon président.
Est-ce que j'aimerais que François puisse donner son point de vue aussi. D'accord avec Jonathan ou pas, François?
Aulas, il fait un travail exceptionnel, on peut pas en dire autant du travail de Hérault.
Oui, justement,
sur
les résultats.
Mais moi j'ajouterais une chose, c'est que comme chacun le sait, l'Olympique de Marseille est frappé par le fair play financier. Ouais, c'est un club qui a affiché 75, un peu plus, presque 76 millions d'euros de déficit dans son bilan de 2018, à peu près la même chose pour l'exercice 2019. Donc il y a des sanctions qui pèsent sur ce club, il doit avoir 30 millions de déficit la saison prochaine et dans deux saisons il doit arriver à 0 centime d'euros. Je serais bien curieux de voir comment il va y parvenir, puisque ça te limite terriblement sur le marché des transferts cet été. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre du marché des transferts olympiens cet été? Moi, j'aimerais vraiment pas être à la place de Villas-Boas, Zubizarreta, parce qu'il va falloir trouver, mais là, une baguette magique, là, vraiment, pour le coup.
Ils sont incapables de payer, ils étaient intéressés par Silas, le nom est très compliqué à dire, mais l'avancement du PFC.
Moi, Gitouka.
Et même le prix qui était de 6 ou 7 millions d'euros, c'est trop. C'est trop pour les finances de l'OM.
6 millions d'euros, c'est la sanction qui pèse sur l'Olympique de Marseille s'il ne respecte pas les clous du fair play financier et qu'il participe à une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est-à-dire qu'ils ont 2 millions fermes et 4 avec sursis en quelque sorte. Et s'ils n'ont pas minimum 30 millions d'euros de déficit, ils prennent et qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe, donc ça fait beaucoup de teams, ils peuvent espérer se qualifier en Coupe d'Europe, c'est l'ambition du club d'aller en Coupe d'Europe, non? Et ben ils prennent 6 millions d'euros dans la gueule, donc c'est le transfert du gars dont tu viens de parler.
Et attends juste,
j'aimerais accueillir Ali. Non mais tu parles trop là.
Oh.
Non mais là depuis 10 minutes.
Bah, voilà. C'est l'OM.
Alors attends, Ali est là. Ali, ça va?
Oui, ça va, super.
Ali, supporter de l'OM et de l'Algérie. Ça a son importance parce que je crois que tu es plutôt content de ce qui se passe pour l'Égypte. On va juste faire un point sur le score. Aurélien Tirsa, on est dans le temps additionnel.
C'est fini là.
4 minutes de temps additionnel, il en reste 2. Toujours un but à 0 pour l'Afrique du Sud.
Ils ne marqueront pas.
Je suis super heureux. Alors, en prévision d'un potentiel Algérie-Égypte en demi-finale au stade du Caire, je pense que là, on se retire une belle épine du pied.
Non mais l'Algérie, en deux jours, il y a le Maroc et l'Égypte qui dégagent.
C'est une autoreroute.
Bah, il reste
le Sénégal.
Ouais. On parlait de formalité pour l'Égypte aussi ce soir.
Ouais. Je suis aussi content que le Cameroun soit sorti, parce que c'est une équipe qui potentiellement pouvait nous poser des problèmes.
Physiquement,
Physiquement, athlétiquement, ils ont des sacrés gaillards avec des joueurs comme Nga 2. Mais très content du résultat et j'espère que l'Égypte va finir sa compétition ce soir, effectivement.
Vous jouez avec qui les Algériens là en 8e?
La Guinée. On joue la Guinée demain.
Sans Naby Keïta qui est blessé et qui est rentré à Liverpool. Hein.
Ouais.
Donc autant dire que c'est méga favori.
Si on tombe pas dans l'excès de confiance, je pense que demain on fait un bon match et on se qualifie. Et après il faudra se concentrer sur le vainqueur.
Il n'y aura pas d'excès de confiance. Belmadi gère bien ça. Belmadi a bien la main sur le groupe.
Alors sur l'OM, Ali, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan?
Je le rejoins complètement sur son analyse, surtout que qu'est-ce qu'on va nous proposer à nous supporters de l'OM pour la saison qui arrive. Le recrutement, ça semble être assez compromis vu les finances du club. En tant que supporter de l'Olympique de Marseille, il est d'ailleurs de question qu'on aille chercher des joueurs en Ligue 2, malgré tout le respect qu'on a pour les joueurs de Ligue 2.
Pour Silas,
mais il nous faut des noms. On est un grand club.
Mais vous pourrez pas. Vous ne pouvez pas. Vous êtes sous la menace du fair play financier. Vous avez un effectif qui doit être réduit à 23 joueurs si vous participez à la Coupe d'Europe l'année prochaine. Vous pouvez pas. Il vous faut des noms, je suis d'accord, mais comment?
Mais il a raison. Vous avez tous les deux raison. Et ça, c'est ça qui est vachement déceptif, parce que lorsque McCourt arrive, tu te dis, bon, bah, il va avoir de l'argent qui va être investi, tu vas avoir des stars qui vont arriver à l'Olympique de Marseille.
Je pense que, en tant que supporter de l'OM, il y a eu une grosse erreur de casting qui a été faite au niveau des dirigeants.
Ah,
déjà,
oui.
Déjà pour Zubizarreta, avec tout le respect que j'ai pour lui. Zubizarreta, c'est un directeur sportif qu'on met dans un club qui a les moyens de recruter. On connaît le réseau de Zubizarreta.
Pour acheter, mais pour vendre, c'est autre chose. Parce que c'est quand tu dois vendre, maintenant aussi, que tu vois la qualité.
Très bien expliqué, d'ailleurs.
C'est quand tu dois vendre que tu vois la qualité aussi du directeur sportif.
Il a fait grand chose avec le Barça, mais aujourd'hui, malheureusement, avec l'OM, avec les moyens qu'on lui met à disposition...
C'est plus difficile, ouais.
C'est très compliqué de ramener des joueurs de qualité à l'OM. Donc déjà, là, il y a une erreur avec Zubizarreta. Et après, le must et le gros problème, c'est le président. Aujourd'hui, on a un président qui connaît rien au football, malgré tout le respect que j'ai pour Jacques-Henri Hérault, qui connaît pas le contexte olympien, le contexte olympique de Marseille. Quand on est président de l'Olympique de Marseille, ben, on se doit déjà de s'imprimer de la culture de l'OM.
Et de connaître le foot, hein. Surtout, et de connaître le foot, surtout pas sortir des saucisses comme un but qui vaudrait double à l'extérieur de la surface.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord.
Les gars,
avec
c'est
vous.
Fini, Kerr. Comme me le dit JP sur le Direct Studio, les carottes sont cuites.
Bravo.
C'est bien, ça.
Aurélien.
Les pleurs dans le stade international du Caire. L'Égypte se fait sortir de sa CAN, de sa Coupe d'Afrique des Nations dès les huitièmes de finale. La victoire des Sud-Africains qui ont fait un bon match et qui marquent en contre-attaque à la 85e minute par Tombing Kondsi, Lorch qui a trompé El Shenawy. Et ça a suffi pour éliminer l'Égypte de Mohamed Salah, qui est réconforté par les Sud-Africains. Mohamed Salah, extrêmement timide, il aura quand même marqué deux buts lors de la phase de poule. C'est terminé pour la lignée des Pharaons.
Quelle journée, élimination du Cameroun et de l'Egypte. On va en reparler après 23h.
C'est cataclysmique.
Ouais. Ouais. C'est vrai. Et puis dans la lutte à distance entre Mané et Salah, là Mané il a marqué hier, Salah est éliminé. Bon, on en reparlera.
Gilbert, par rapport à ce qu'on se disait là, héros, évidemment, quand on entend tous, oui, et si le tir à 20 mètres il rapportait quoi, deux buts,
ouais.
Ouais, deux buts, deux points. Attends,
oui, non, mais là-dessus, moi je veux pas forcément le défendre.
Exactement.
Sur ce coup-là, il est dans un espèce de forum de discussion.
Il aurait été bien inspiré de pas le dire. En revanche, son boulot, c'est la gestion du club, les salaires. C'est lui qui les valide. Et des salaires à 6 chiffres dans ce club-là, un peu surévalués pour certains joueurs, c'est lui qui les signe. Et c'est là où on touche à la mauvaise gestion. Moi, qu'un président soit pas forcément quelqu'un qui ait une culture foot phénoménale, qui soit un féru de ce sport, c'est pas si grave. En revanche, qu'il sache piloter, gérer son club avec sa stratégie à court, moyen et long terme, parce que tu peux pas faire autrement, faut pas que se projeter trop loin ni trop près. Là, c'est lui qui est le premier responsable, c'est lui qui est en première loge. Les 76 millions quasiment de déficit l'année dernière.
Ah oui.
Il a une responsabilité beaucoup plus importante que l'OM finaliste de la C3.
Et bien sûr.
Ça, c'est pour lui. Et c'est là que il est attendu.
Et moi, ce que je déplore.
Le mot de la fin pour Ali.
Ouais.
C'est sans parler aussi du recrutement. Quand on fait venir des... Je suis bien content que Payet revienne à l'OM, mais aujourd'hui, on a donné un salaire à Payet digne d'un joueur prometteur qui va exploser sur les années à venir. On voit le salaire de Strootman, pareil. Strootman, il reste sur une saison mitigée à la Roma. Il a été blessé, il revient, il a un gros salaire.
500 000 par mois.
Il y a un gros problème. Il y a un gros problème de
Gustavo de gestion, aussi. Il a pas payé très cher, mais très gros salaire. Mais bon,
il est
bon joueur.
Il est mérite.
Très bon joueur.
Merci Ali. Tiens, un petit questionnaire magique, comme tout le monde. Si tu peux faire jouer qui tu veux, comme joueur à l'OM, joueur d'aujourd'hui, du passé, tu as tous les pouvoirs, tu prends qui?
Jardel.
Alors, honnêtement, je vais chercher JPP.
Excellent.
Mais oui.
Comme entraîneur, tu prends qui?
Comme entraîneur, je vais chercher Aimé Jacquet.
Ah, je pensais que tu allais me dire Raymond Guetta, je sais pas pourquoi dans la
Aimé Jacquet.
Et si tu peux effacé de la surface du football un personnage, un joueur, un entraîneur, je sais pas, un consultant, n'importe, tu choisis.
Raymond Domenech.
Ah, ah bah encore.
Comme par hasard, ouais. C'est marrant. Merci Ali, salut à toi.
Au plaisir les gars, bonne soirée. Salut,
bonne soirée. Merci, dans quelques instants, on est de retour. On va parler arbitrage, Coupe du Monde féminine et Coupe d'Afrique. Puisque donc, c'est l'événement du soir, l'Égypte est éliminée. Égypte éliminée par l'Afrique du Sud, 1-0 pour les Sud-Africains. Sud-Africains qui n'avaient pas du tout impressionné au premier tour, hein, une victoire. Mais tu sais qu'il y a un truc extraordinaire à la CAN.
Deux défaites, pas deux nuls. Hein.
Hier, le Maroc est éliminé sans perdre un match en encaissant un seul but. Et le Bénin est qualifié sans gagner un match. C'est génial le football.
Oui, non, mais là on parle aussi des équipes, sinon l'équipe la plus dominante en Afrique, sur la scène continentale. C'est l'Égypte, c'est l'Allemagne.
Soit avec la sélection et les clubs.
Tiens, puis il y a Jean-Claude Godin qui voulait vous dire un mot.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà,
il parlait à la courte, hein, tranquillement, détendu, Jean-Claude Godin. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.